Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu, un texte de l'Évangile, et vous ne serez pas surpris qu'en ce dimanche des Rameaux, nous lisions le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans Matthieu, au chapitre 21, nous allons lire les 17 premiers versets. Matthieu 21, les versets 1 à 17. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez là une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent, firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci ? » Les foules répondaient, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et Jésus les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Mais tu entends ce qu'ils disent ?»« Oui, répondit Jésus. Et n'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« J'ai tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont au sein. » Jésus les laissa là. Et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Jusqu'ici notre lecture. Qu'aurions-nous fait si nous avions été ce jour-là à Jérusalem, témoins de l'événement? Aurions-nous crié de joie? Aurions-nous risqué un vêtement pour offrir à Jésus un tapis qui honore sa venue? Ou serions-nous restés prudemment à distance, à regarder de loin, de haut peut-être? Et puis, qu'aurions-nous regardé? La foule en liesse? Les excès de certains, ici ou là? La spontanéité, la simplicité ailleurs? Nous serions-nous plutôt intéressés en analystes au rapport de force qui se faisait jour? Ou aurions... Et au milieu de tout cela, aurions-nous seulement vu Jésus et pris le temps d'une pause, d'un arrêt réflexion, juste pour essayer de penser le fond et de réfléchir à la signification? C'est vrai qu'il nous faut constamment apprendre à regarder plus loin, plus profond que la surface des événements. Faire une pause, que signifie un moment comme celui-là? Première lecture de notre récit pourrait nous donner l'impression d'un Jésus assez opportuniste. Les foules ont convergé vers Jérusalem, c'est l'approche de la Pâque, partout des pèlerins viennent vers la grande ville. L'atmosphère de la fête est très chargée d'espérance, d'attente en tout genre, car Pâque, c'est la fête qui chante le Dieu qui libère de toutes les oppressions, le Dieu dont on attend la libération. Et somme toute, Jésus profiterait d'un moment comme celui-là pour susciter un mouvement populaire de triomphe autour de sa personne, autour de son action. Est-ce alors la justification de la religion spectacle? Comment comprendre cette manifestation royale voulue par Jésus et suscitée par lui? Il me faut, me semble-t-il, d'abord prendre compte le fait que ce temps est voulu par Jésus. Jésus n'a pas été débordé par les événements. Ce qui s'est passé là, d'une certaine façon, est voulu, est choisi par Jésus. Jésus a voulu donner un signe fort, un signe public de ce qu'il était, de ce qu'il est venu apporter. Jésus a choisi d'entrer dans la ville sainte d'une manière particulière, d'une manière publique, dans le climat qu'il savait surchauffer. Il a choisi d'avoir une monture ce jour-là, lui qui d'habitude marchait à pied. Il l'avait anticipé, c'est ce que montre le récit de l'envoi des disciples auprès du propriétaire de l'âne qui vraisemblablement avait été prévenu. Jusque-là, l'attitude de Jésus a toujours été très réservée par rapport à la foule, par rapport à toute publicité qu'on pourrait lui faire. Chez lui, pas de bain de foule pour entretenir son indice de popularité, c'était pas du tout le genre. Quand Jésus faisait un miracle, systématiquement, il recommandait la discrétion. Quand on a voulu le faire roi, il s'est retiré très vite tout seul sur la montagne. Ça nous est dit dans l'évangile de Jean. Et là, ce jour-là, Jésus a voulu qu'il y ait quelque chose de particulier. On s'approchait du mont des Oliviers. Vous savez, pour les pèlerins de Jérusalem, autour de la Pâque, le mont des Oliviers, c'était un peu comme aujourd'hui les passages des grands cols du Tour de France. Le moment où, pour tous ceux qui marchaient vers Jérusalem, tout d'un coup, la ville est là, devant eux. C'est le moment où, après ce long voyage, enfin, elle est devant les yeux. C'est le lieu à partir duquel on descendait pour aller vers la ville sainte. Et à cet endroit-là, tout le monde attendait tout le monde. On s'y saluait, on s'y attendait. Certains qui étaient déjà arrivés dans la ville remontaient pour accueillir ceux qui venaient vers la ville. Ils chantaient des cantiques. C'était la joie de Pâques. C'était la joie du Dieu libérateur qui délivre son peuple. C'était l'attente, c'était l'espérance. Qui sait, peut-être maintenant, peut-être aujourd'hui, peut-être cette année, le Seigneur viendra nous délivrer. C'est donc à cet endroit-là et dans ce contexte-là que Jésus a choisi d'arriver sur une monture à Jérusalem. Il a choisi cela dans un contexte où la moindre allumette, il le savait, pouvait enflammer toutes les espérances messianiques. Tout comme il choisit ensuite le geste fort d'entrer dans le temple et d'y agir en maître et en seigneur. Derrière tous ces choix, il y a un message. Jésus veut se présenter. Jésus veut se présenter publiquement comme celui qui vient de la part de Dieu, comme ce Messie roi qui avait été promis à la descendance de David, comme ce Messie roi qui entre dans sa ville, qui entre dans son temple et qui vient véritablement à son peuple. Dieu avait promis au fil des siècles que viendrait le Messie, celui qui était oint pour accomplir tout le projet de Dieu, celui qui libérerait, celui qui sauverait son peuple. Dieu avait promis que ce Messie, lorsqu'il viendrait, ouvrirait vraiment de nouveaux horizons d'espérance et de paix. Dieu avait promis. Et pendant des siècles, et jusqu'au moment de Jésus, des hommes, des femmes avaient cru, avaient espéré, avaient attendu, et contre toute espérance parfois. C'est par rapport à cette attente, par rapport à cette espérance, que Jésus a voulu donner un signe clair, un signe fort. Il a voulu affirmer de manière claire qu'il est vraiment celui en qui les promesses et les attentes faites s'accomplissent vraiment. Jésus a voulu dire à ceux qui attendent, à ceux qui espèrent, à ceux qui croient. En lui, le temps des accomplissements, en lui, le temps de la réponse de Dieu est venu. Ce qui signifie que ceux qui croient en lui ne croient pas en vain, que ceux qui espèrent en lui n'espèrent pas en vain. Le message du jour des rameaux est que l'attente de Dieu et l'espérance que l'on met en Dieu ne sont pas vouées à être une attente sans fin. Il y a un temps pour les accomplissements, il y a un temps pour la joie, pour l'allégresse, pour les attentes comblées. Et c'est en Jésus que ce temps est donné, c'est en Jésus que cet accomplissement est là. Et Jésus a voulu que ce repère soit donné, soit laissé dans l'histoire et nous soit laissé aussi à nous aujourd'hui. Cela, nous pouvons le recevoir nous aussi aujourd'hui encore à la distance de l'événement comme un encouragement, car Jésus a donné un signe qui demeure et qui doit nous parler encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas condamnés à toujours courir à la poursuite de l'espérance. Il y a aussi une place pour les temps d'accomplissement. Et en ce qui concerne les promesses de Dieu, le Christ est venu comme gage de ces accomplissements. En lui, nous dit l'apôtre Paul, Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. C'est important pour nous de nous en rappeler. Nous vivons dans un contexte mondial bien sombre, bien oppressant. Que de fois, face à la violence aveugle ou froidement calculée, nous crions en notre cœur, mais que ton règne vienne, mais que ton règne vienne, Seigneur. Jésus nous invite, par ce geste qu'il a voulu marquer, à garder espérance, à continuer à attendre de lui, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Il est celui qui vient. Il est le roi annoncé par les prophètes et dont le règne porte non seulement sur un peuple, mais sur toute chose visible, invisible, présente, à venir. Il faut qu'il règne, nous dit l'apôtre Paul, il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a voulu signifier qu'il est celui-là. Après l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous le savons, il y aura la croix. Incompréhensible d'abord, totalement incompréhensible, puis lumineuse de tout l'amour de Dieu. Ce Dieu qui, par ce chemin tellement inédit, inouï, a pris sur lui notre condamnation pour nous en délivrer. Après la croix, il y aura la résurrection, magnifique triomphe de Jésus sur la mort et sur la condamnation, et le sceau de Dieu qui atteste de manière irréversible que Jésus est bien le Seigneur, qu'il est bien l'unique, qu'il est bien celui qui accomplit toutes choses, qu'il est bien celui en qui le plan de Dieu se réalise, celui en qui le plan de Dieu triomphe de tant d'obstacles et triomphera jusqu'au renouvellement de toutes choses, car la résurrection est annonce et gage de ce renouvellement. Et depuis cela, nous sommes toujours et encore dans l'attente. Nous attendons qu'il revienne. Qu'il revienne non pas sur un âne, mais en gloire, sur les nuées, et pour un règne éternel, dans un monde nouveau qu'il aura lui-même renouvelé, et où le mal sera totalement éradiqué. Et c'est pourquoi nous prions et prions encore, délivre-nous du mal. Et dans cette attente, nous pouvons nous rappeler que Jésus nous a laissé ce signe que c'est bien en lui, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il est bien ce roi, attendu autrefois, manifesté en la chair, et que nous attendons encore pour qu'il se manifeste en gloire. Et il nous laisse, par ce signe qu'il atteste lui-même, cet encouragement à l'espérance Une espérance fondée non pas tant sur ce que nous voyons autour de nous, mais fondée sur ce que nous savons de lui. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul. Et Jésus nous invite à avoir ce regard, ce signe. Mais ce signe qui atteste Jésus comme le oui de Dieu aux promesses qu'il a faites, Jésus l'a voulu comme une invitation à la joie et un signe qui respire la vie. Jésus a voulu, Jésus a aimé les chants de cette foule saisie de joie. Voyez-le défendre même des gamins qui plus tard dans l'après-midi criaient encore dans le temple. Il leur dit, mais c'est une louange pour Dieu que ce chant des tout-petits. Jésus a aimé cette joie. Jésus a aimé. Jésus a voulu mettre en évidence en ce dimanche des rameaux que l'évangile, la bonne nouvelle, cela respire. Au cœur de la foi, il y a une relation personnelle, intime, bien sûr, rendue possible avec Dieu. Mais l'horizon de l'évangile ne se cantonne pas à quelque chose qui resterait toujours confidentiel, qui resterait toujours rentré. La joie de l'évangile est appelée à être large, partagée, ouverte, comme en ce jour-là, où la fête et le chant et la prière ont fait bon ménage. On présente souvent Jésus comme celui qui sait être tout proche de celles et ceux qui souffrent et qui ont mal. Et c'est vrai, Jésus veut l'être vraiment. Mais Jésus est aussi celui qui suscite par son action, qui suscite la joie tout simplement. Son œuvre est bonne, son œuvre est belle, elle dilate le cœur, elle fait chanter. C'est vrai pour le salut qu'il nous donne, le pardon, la libération de nos fautes. Si juste on y pense un peu, si on ne s'arrête pas à dire c'est comme ça, c'est acquis, ça suscite de la joie dans le cœur. Ça fait chanter vraiment. C'est vrai aussi lorsque le Seigneur intervient pour nous, en réponse à nos prières. C'est vrai de l'harmonie qu'il apporte dans nos vies. Et ce sera vrai et éclatant au grand moment de la victoire finale. À ce moment-là, la joie sera entière, totale et éternelle. Jésus, que ma joie demeure, c'était le titre que Bach donnait à certaines de ses œuvres. Tout à la gloire de Dieu. L'œuvre du Seigneur Jésus veut être source de joie. Quelle est la source véritable de cette joie qui s'exprime dans en ce jour des rameaux? Le mot-clé de ce passage est le mot « venir », le verbe « venir ». C'est lui qui résume le mouvement de Jésus qui vient vers Jérusalem. Et c'est lui que l'on retrouve dans les deux citations de l'Ancien Testament qui encadrent vraiment notre texte. Matthieu commente l'événement en citant un texte du prophète Zacharie. « Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. » C'est aussi ce que reprend la foule lorsqu'elle entonne un psaume que l'on chantait beaucoup à Pâques. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Au cœur de la joie, il y a cette magnifique affirmation. Le Seigneur vient. Il vient à toi. Il vient pour toi. Il y a fête, il y a joie, parce que l'on découvre en Jésus l'action d'un Dieu qui n'est pas lointain, qui n'est pas abstrait, qui n'est pas détaché, mais au contraire, un Dieu qui vient. Ce mot parle d'initiative. Ce mot parle aussi d'un vrai intérêt de Dieu pour nous. S'il vient, c'est parce qu'il s'intéresse à nous. Cela parle d'un désir de relation. Il vient pour nous rencontrer vraiment. Cela parle de rencontre. Certes, la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, que Dieu nous échappe, qu'il est au-delà de nos représentations, qu'il habite une lumière inaccessible, qu'il est saint, trois fois saint, inatteignable pour nous s'il s'agit de nous élever à lui. Mais il a choisi d'être celui qui vient, celui qui fait le mouvement, qui en prend toute l'initiative, qui en assure la réalisation, qui en paye le prix, et cela pour nous rejoindre vraiment. Ton roi vient à toi. ton roi vient à toi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous crions parfois, nous soupirons parfois, viens Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin d'être rejoints, tellement besoin d'être secourus, tellement besoin d'être touchés, juste touchés, de savoir vraiment qu'il est là pour nous. C'est cet événement où Jésus se présente comme celui qui vient, nous encourage à vraiment lui demander, viens Seigneur. Oui, viens, rejoins-moi là où j'ai besoin d'être rejoint. Oui, viens, touche-moi si j'ai besoin de recevoir quelque chose de particulier de ta présence. Oui, viens, je m'ouvre à toi. Viens, j'ai besoin de toi. Viens me changer. Viens habiter en moi. Viens, fortifie-moi. Viens, ranime-moi. Viens, sois ma joie. Sois mon élan. Sois ma vision. Viens pour moi. Viens vers moi. Mais viens aussi pour ce monde qui a tant besoin de toi. C'est là notre prière. Et ce texte où Jésus s'affirme vraiment comme celui qui vient, nous encourage à la faire, à la renouveler et à attendre de lui qu'il manifeste encore son désir de venir, car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce texte nous rappelle aussi que lorsque Jésus vient, effectivement vers nous, d'une manière ou d'une autre, c'est une joie, une belle joie, une belle réalité qui fait chanter, qui apporte de l'harmonie. Et je dirais que nous sommes aussi invités ce matin, en ce dimanche des Rameaux, à laisser résonner en nos cœurs tout ce que d'une manière ou d'une autre, nous avons déjà pu expérimenter de cette réalité du Seigneur qui vient vers nous. Il vient, ce n'est pas anodin. Il vient, ça veut dire quelque chose, c'est immense, ça veut dire beaucoup. Ça suscite aussi notre joie. L'Évangile nous dit que Jésus, la lumière du monde, lorsqu'il est venu vers les siens, n'a pas été toujours reconnu. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors on dit parfois, c'est les autres, oui, nous, on l'a reçu, c'est bon, c'est acquis. Mais se pourrait-il que parfois, le Seigneur vienne aussi vers nous, soit venu peut-être vers nous, et que nous le banalisions un petit peu, que nous n'accordions pas à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus sa vraie valeur. Se pourrait-il que parfois nous le banalisions un peu, qu'il vienne, qu'il nous rejoigne d'une manière ou d'une autre, et que nous ne laissions pas résonner cela à sa juste mesure? Qu'il vienne, qu'il agisse dans nos circonstances en réponse à nos prières, et que nous, oui, on accueille cela, mais après, très vite, on se laisse juste préoccuper par tellement d'autres choses qui prennent le dessus. Est-ce que vraiment nous valorisons à sa juste mesure ce que signifie un moment où le Seigneur vient, où il agit pour nous? Donc c'est parfois difficile. Il nous arrive de prier longtemps, longtemps, longtemps pour quelque chose. Quand ça arrive, on dit merci une fois et c'est terminé. On a prié des dizaines de fois et quand c'est là, on dit merci et c'est passé. Pas facile de savoir bien donner sa substance à ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il a fait quelque chose pour nous. Ici, on voit que cela suscite de la joie, de l'enthousiasme. Et je pense que c'est bon pour nous de nous dire, lorsque le Seigneur a fait quelque chose pour nous, lorsqu'il a répondu à une de nos prières, repassons quand même cela dans notre cœur. Ne banalisons pas juste cela comme cela et laissons cette réalité devenir source de joie, source de confiance renouvelée, source d'espérance nouvelle et aussi source de force pour affronter d'autres réalités. Voici ton roi vient à toi. Donnons-nous une vraie valeur à ce Dieu qui vient lorsqu'effectivement il le fait pour nous. Ce n'est pas une obligation douloureuse, pénible que de devoir faire cela. Donner valeur à sa venue, à ce qu'il a fait pour nous, c'est juste nous réjouir, c'est juste apprécier. C'est laisser résonner en nos cœurs à sa vraie mesure le bien que nous a fait, que Dieu nous a fait. Alors veillons-y, veillons sur cette joie. Jésus est celui qui vient. Il veut être aussi pour nous encore celui qui vient. Mais quelle est la marque de sa venue? Le Seigneur, le roi, vient monter sur un âne, le petit d'une ânesse. On a vu souvent dans l'âne la signification, le signe de l'abaissement et de l'humilité du Christ. C'est vrai, mais c'est vrai en second. Car Jésus se présente ici d'abord comme le roi qui vient, comme le roi qui vient. Et il faut bien le noter. Voici ton roi vient. Et il faut se rappeler que l'âne n'était pas indigne d'un roi. David et ses fils l'ont utilisé comme monture, on le voit à plusieurs reprises. Et surtout, dans une ancienne prophétie de Jacob, qui est dans le livre de la Genèse au chapitre 49, le patriarche annonce à la descendance de David la venue de celui qui tient le sceptre. On l'appelle le Shiloh, hein, c'est un titre messianique aussi. Celui qui tient le sceptre, ce qui est là pour régner. Et dans cette prophétie, celui qui tient le sceptre est monté sur un âne aussi. Donc l'âne n'était pas du tout indigne de la royauté, de la dignité royale. Mais l'âne fait contraste avec le cheval de guerre du chef militaire. Et si Jésus est venu donner un signe, une marque de sa venue, c'est cette royauté pacifique qu'il affirme. Elle ne reposera pas sur une démonstration de force, elle est au service de la paix, au service de chacun aussi, y compris des plus humbles. Jésus vient royalement, oui, mais humblement et pour la paix. Il n'impose pas massivement sa présence. Il ne force pas le passage. Il ne pourfend pas tout autour de lui. Il vient pour apporter. Il vient pour faire du bien. Il a cette humilité-là. L'humilité du service, du don, de l'amour. L'humilité de la paix aussi, qui en général ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui apporte beaucoup de bien. Il n'est pourtant pas sans argument, ni sans moyens. Et il ne faudrait surtout pas confondre l'humilité choisie par Jésus avec de l'impuissance ou de l'inaction. Il vient humblement, mais fort de tout ce qu'il a déjà fait. Et Luc souligne que la foule s'est mise à acclamer Jésus ce jour-là à cause de tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc il y a tout le passé de ce que Jésus a fait qui fait que l'on acclame. Il est riche de toute son action. Et juste après, Jésus agira avec force pour chasser les vendeurs qui avaient investi le temple et détourner de son but la maison de Dieu. Autrement dit, ce roi humble dans ses relations sait faire preuve de force lorsqu'il s'agit de s'opposer au mal. Et il le manifestera pleinement lorsque, revenant en gloire, il jugera les vivants et les morts. Mais surtout, ce roi vient déterminé à ouvrir un chemin qui lui coûtera très cher, le chemin de notre réconciliation avec Dieu. Jésus n'entre pas à Jérusalem pour y être acclamé, pour se faire son petit triomphe personnel. Il sait qu'à Jérusalem, il va souffrir, être rejeté, prendre sur lui de plein fouet toute la déferlante du mal, de la mort et du jugement que mérite le mal. Et c'est ce que nous rappellerons, ce que nous méditerons pendant toute cette semaine sainte de la Passion. Jésus vient, il sera livré aux forces du mal, aux forces de l'injustice, de la haine. Il souffrira pour nos péchés. Il endurera, il prendra sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Cela rendra possible une libération plus fondamentale que celle de toute oppression politique. Il nous délivrera de notre condamnation, nous offrira le pardon, la réconciliation avec Dieu, après en avoir lui-même payé le prix entier. Jésus goûtera la mort, la subira, la traversera, et pour en triompher au troisième matin. Et sa résurrection sera la lumière d'une espérance forte, invincible, et l'annonce du jour où il viendra pour faire toute chose nouvelle et où ni le mal ni la mort ne seront plus. C'est avec ces perspectives et ces arguments à venir, en quelque sorte, que Jésus vient dans l'humilité, oui, l'humilité qui veut préserver la possibilité d'une relation, l'humilité qui ne veut pas écraser. Mes humilités, une humilité forte de tout ce qu'il est, forte de tout ce qu'il va faire. Il est le roi qui vient, non pas comme les autres puissants qui viennent et s'imposent, ou qui viennent à courir dès qu'une petite miette de pouvoir est à la clé. Il vient, lui, pour servir, triompher aussi, mais d'un triomphe qu'il veut pour nous et non pour lui-même. Et aujourd'hui encore, donc, le Seigneur est celui qui vient. Il désire la rencontre avec nous, mais il ne l'imposera pas. Son désir profond, il l'exprime de manière très belle. « Je me tiens à la porte et je frappe. » Un roi qui vient et qui frappe à notre porte. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. » Et en ce dimanche des rameaux, où nous mesurons ce que signifie le fait que le Seigneur vient, j'aimerais dire, veillons à ce que la porte reste bien ouverte. Veillons à ce que, oui, régulièrement, Seigneur, si tu viens, je t'ouvre la porte, je veux vraiment que tu aies une belle place dans ma vie. Le Seigneur vient, ton roi est celui qui vient. Laissons résonner ces deux mots, ton roi est celui qui vient. L'un donne force à l'autre. Ton roi dit la grandeur, la confiance que nous pouvons avoir à lui. Ton roi vient, dit son désir de proximité. Alors que notre cœur soit en joie, que notre confiance se renouvelle, que notre espérance se fortifie au cœur de ce que nous vivons les uns et les autres. Dites à la fille de Sion, ton roi vient, il vient à toi. Et si ce Dieu-là est pour nous, qui sera contre nous ? Amen.